Alors, ce matin, on va voir un petit peu une présentation générale du Notre Père. Il faut que je m'arrête à 11h15, donc je vais... Voilà, Sophie m'a un peu présenté qui vous étiez, un petit peu chacun, catéchiste, LEM, en aumônerie de l'enseignement public, responsable des jeunes, bon, voilà. Il faut que... Normalement, c'est une session que je donne sur 2 jours, donc il faut... Voilà, mais je ne vais pas aller vite, mais je vais aller au plus percutant. Voilà. Donc, alors du coup, il y a un petit peu, toujours dans ces journées, il y a toujours un aspect un peu de frustration parce que on voudrait partager davantage, bon, on veut tout avoir, on veut connaître des choses nouvelles, on veut du temps de silence, on veut, voilà. Et donc, c'est normal d'être déçu, ça nous fait désirer davantage. Bon. Alors, je vous ai envoyé, en fait, des petites questions. Ces questions-là, elles sont à réfléchir. Elles sont surtout à se dire, mais en fait, notamment dans la présentation du Notre Père, c'était dans l'invitation, Notre Père qui est aux cieux, comme je dis, mais est-ce qu'il ne serait pas sur la terre ou dans notre cœur? Ça veut dire qu'il est aux cieux. Pourquoi dire on a besoin de dire Notre Père qui est aux cieux. Enfin, voilà. Pourquoi que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne, puisque Jésus dit que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous? Qu'est-ce que ça veut dire que ta volonté soit faite? C'est quoi la volonté de Dieu? Vous allez le dimanche matin, sorti de la messe, vous leur dites à quelqu'un, là, toi, tu as fait ta communion, tu as je sais pas quoi, alors c'est quoi la volonté de Dieu? Tu dis dans le Notre Père tous les jours, tu sais pas. Et un adulte comme un enfant, hein, bon. Et y compris un séminariste ou un prêtre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ça, à la limite, c'est plus facile. Alors, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors là, la moitié des gens ne comprennent pas là. C'est-à-dire que Dieu ne me pardonne pas si je n'ai pas pardonné avant. En fait, il est bon, Dieu, ou il est... Bon. Alors, ne nous soumets pas à la tentation. Alors là, on a changé la traduction, hein. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Bon, en même temps, c'était pas si aberrant de dire ça, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et délivre-nous du mal, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque, normalement, depuis Pâques, nous sommes délivrés du mal. C'est le sens de la résurrection. Bon, bref, je prends chaque phrase et je m'aperçois que chaque phrase, en fait, je la comprends pas finalement. Enfin, voilà. Alors, dans une première partie, on va voir. Que notre Père est une prière, en fait, d'abord que l'on reçoit. Et en 3 temps, Dieu nous dit, d'abord, premier temps, Dieu nous dit ce qu'il faut lui demander. Hein? Je vous donne une prière pour que vous sachiez ce que vous devez me demander. Ensuite, on verra, Dieu nous dit pourquoi le demander. Et ensuite, Dieu nous dit comment le demander. Je vais rappeler ça à chaque fois. Ne vous inquiétez pas. Alors, Dieu nous dit ce qu'il faut lui demander. Le Notre Père, c'est une prière où nous apprenons ce que nous devons demander à Dieu. L'expérience naturelle, souvent, c'est l'expérience, notre pensée, elle est là, on réfléchit, c'est un peu flou. Puis à un moment donné, ça y est, on conceptualise et puis on parle. Voilà, ah, ça y est, voilà, je parle, oui, c'est ça que je veux te demander, ça, vous voyez? On a d'abord une pensée floue, ensuite une parole. Dans la Bible, c'est l'inverse en fait. Avec les psaumes, l'exemple des psaumes est très parlant pour ça. C'est Dieu te dit, écoute, accueille une parole, et cette parole, elle va convertir ta pensée. Comme dit saint Paul, Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. En fait, vous ne pensez pas très bien, donc vous allez prendre la parole pour évangéliser vos pensées. Et c'est ça, notre Père, en fait, je reçois ce que je dois demander. Comment penser? Qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu? Bah, écoute, invente pas des trucs, demande pas une nouvelle voiture ou un camion. Voilà, tu as 7 demandes. Et si tu sais ce que tu dois demander à Dieu, tu vas savoir ce que Dieu veut te donner. Si tu sais ce que tu dois demander à Dieu, tu vas savoir ce que Dieu veut te donner. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? De quoi avons-nous besoin? Le catéchisme de l'Église catholique, hein, qui est quand même le document de référence. C'est sympa, vous voyez. Le catéchisme, c'est pareil, c'est le même mouvement. Pourquoi on a un catéchisme officiel? Parce qu'on n'a pas à se réinventer la foi tout le temps. À quoi nous devons croire, etc. Attendez. Il y a une parole, tu reçois, hein, quand un catéchumène demande le baptême, on lui dit, mais que demandez-vous à l'Église de Dieu? Alors il doit répondre, ben, je demande la foi. C'est ça qu'il y a dans le rituel. Hein. Et que vous apporte la foi? Elle m'apporte la vie éternelle. Donc la foi, c'est quelque chose que l'on reçoit. Bon. Et la foi, enfin, je ne vais pas commencer, il y a une journée sur la foi à l'école du diocèse, mais la foi, il y a la foi incontenue et aussi un mouvement du cœur, une adhésion. Bon. Le contenu, c'est le credo, et ce credo est développé dans le catéchisme. Bon. Alors, le catéchisme dit l'oraison dominicale, donc la prière du Seigneur, est vraiment le résumé de tout l'évangile. C'est le résumé de tout. Saint Jean de la Croix dit « Il est clair que lorsque ses disciples lui demandèrent de leur apprendre à prier, le Christ a dû leur dire tout ce qui était nécessaire pour être exaucé du Père éternel, dont il connaissait les préférences. Or, il ne leur enseigna que les sept demandes du Notre Père, qui comprennent tous nos besoins spirituels et temporels. » Voilà. Alors, ensuite, il faut réfléchir, autre petit point, toujours dans « Dieu nous dit ce qu'il faut lui demander », il faut réfléchir en fait que c'est une prière de demande. C'est intéressant, le sommet quand même de la vie chrétienne, c'est la louange. On parle de l'Eucharistie comme la source et le sommet de la vie chrétienne. Eucharistie, ça veut dire action de grâce, c'est le sommet. Au ciel, on va être dans cette louange, bon, perpétuelle. Bon. Mais en même temps... Jésus n'enseigne jamais la prière de louange. Par contre, à plusieurs reprises, il enseigne la prière de demande. Pourquoi ? En fait, dans la louange, on peut très bien se tromper si, avant cette prière de louange, nous ne sommes pas passés par l'humble chemin de la prière de demande. Donc, c'est important, vous voyez, ce temps qu'on a en journée, c'est un temps de récollection. Donc, je vais vous parler du Notre Père, mais je vais aussi vous donner des exemples assez concrets, à la fois de ma propre vie, et aussi de ce qui fait des points de conversion concrets. Hein, mon but, ce n'est pas que vous en sachiez beaucoup à la fin de la journée, même si, mais c'est que en fait, vous ayez découvert des points voilà, de conversion. En fait. Le disciple, c'est celui qui se convertit sans cesse. Donc ça va, voilà. Donc je suis plutôt dans ce registre-là que dans l'enseignement. Alors, vous voyez, des exemples de prières d'action de grâce qui sont mauvais. Luc chapitre 18. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Luc 18. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce !» de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, etc. Mon Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres. Voilà. Oui, donc c'est un problème. C'est une mauvaise prière. Pourtant, il rend grâce. Hein. Comment il rend grâce? En piétinant son frère. Alors, ça, voilà. En fait, voyez... l'autre, par contre, le publicain, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Il entre dans une prière de supplication. Mais le but, ce n'est pas qu'il soit toute sa vie dans cette prière de supplication, mais c'est une étape. Le pape François nous a envoyé une lettre qui s'appelle « La joie de l'Évangile ». Non. Et puis, après, nous avons « L'année de la miséricorde ». La joie de l'évangile, j'espère que vous l'avez tous lu, ça va? C'est quand même le grand texte du pape François, hein. Il le dit, c'est mon programme, la joie de l'évangile, c'est de dire, écoutez, il y a un problème dans l'Église. En fait, il faut changer les choses. Il faut faire différemment. Alors, le titre est accrocheur, hein, la joie de l'évangile. En fait, quand vous lisez l'intérieur, il nous engueule tous. Alors, il fait tout un truc sur les homélies en disant, écoutez, les prêtres, quand vous prêchez, c'est pas très intéressant, donc faites attention, il faut changer. Les laïcs en pastoral, ils passent, tout le monde y passe. Et ensuite, donc vous regardez ça, et alors ensuite, on a une année de la miséricorde, et je me dis, c'est une lecture personnelle, vous vous rendez bien compte, quand on a un petit peu travaillé dans l'Église, au bout d'un certain temps, on se dit, ben, j'aurais dû faire différemment. C'est quand quand vous êtes prêtre, enfin, quand vous avez une fonction, que vous avez fait toujours de la même manière. Pourquoi de la même manière? Parce que c'était sécurisant. Voilà. Et tout d'un coup, vous prenez, parce que vous faites aider. Moi, par exemple, je me suis fait aider, et je continue en tant que prêtre de paroisse, j'ai autour de moi quelques personnes qui ont le droit de me dire ce qui ne va pas, et qui restent amis. Eh bien, oui, moi j'aime bien prêcher, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, pour les lycéens, par exemple, je ne donne plus aucun enseignement. Par contre, mon équipe d'animation, elle enseigne, et en amont, je leur prépare les documents. Vous voyez, ils voulaient un truc sur la Bible et la violence dans la Bible. Hein, Dieu est violent, etc. Bon. Eh bien, j'ai bossé pendant 3-4 jours le truc, j'ai tout mâché le travail, et je leur dis, c'est vous qui allez donner l'enseignement. Vous voyez ? Mais du coup, c'est une conversion. C'est-à-dire, j'accepte que quelqu'un donne l'enseignement alors que je pourrais le faire. Bon, alors, on a tous des points, vous voyez, et quand vous rentrez, donc, quand ça fait un certain nombre d'années que vous faites toujours de la même façon, mon père, on a toujours fait comme ça, vous vous rendez compte qu'il faut faire différemment ou que vous êtes trompé dans la manière de faire, eh bien, vous rentrez forcément dans la miséricorde. Seigneur, en fait... au lieu de faire des tas d'activités pour les gens, j'aurais dû les visiter chez eux, par exemple. J'ai pas pris le temps de les visiter. C'était plus facile de parler à une foule, mais j'aurais dû aller voir chacun chez eux, etc., pour mieux les connaître. Et donc, je suis passé à côté de mes parents du caté, par exemple. Eh bien, Seigneur, je te supplie, donne-moi ta miséricorde. Voyez, la lettre du pape François, pour moi, c'est ça, c'est la joie de l'évangile, c'est prenez conscience qu'il y a un souci, et ensuite, ne désespérez pas, rentrez dans la miséricorde, et puis, vivez autrement. Bon, c'est ma lecture. Hein. Bon. Voilà, autre exemple de louange. Vous voyez, par exemple, un enfant qui marche bien à l'école, je ne sais pas quoi, dans la famille, vous avez plusieurs enfants, et vous faites des réflexions du style, voilà, je suis heureux, je te rends grâce, Seigneur, pour cet enfant qui fonctionne bien. Est-ce que, dans cette action de grâce, il n'y a pas en creux une critique de tel ou tel enfant qui ne va pas bien. Voilà, c'est assez piégeant. Enfin, vous voyez, Jonas, le missionnaire, c'est celui qui va en mission et qui ne veut pas y aller, et qui supplie le Seigneur de ne pas l'envoyer, qui est un pauvre. Et c'est pour ça qu'il touche. Parce qu'en fait, il a toutes les qualités pour ne pas être missionnaire. Ouais. Et c'est ça, oui. Bon. Alors, je me souviens encore, puis j'arrête, parce que une activité, on avait fait une soirée sur le thème homme-femme. À une époque, c'était très à la mode, sur l'identité homme-femme, voilà. Bon. Donc, on a fait une grosse soirée, puis alors, ils ont fait plein de pubs et tout, il y avait plein de monde, c'était un dîner, et puis ensuite un intervenant qui venait et tout, dans mon ancienne paroisse. Et puis vraiment, on est content, vous voyez, on a eu 100 personnes qui sont venues, c'est super et tout. Alors, je posais la question, mais alors, bon, les 100 personnes, vous avez pu les accueillir, les rencontrer Ben non, vous vous rendez pas compte. On avait prévu 50, il y a eu 100. Vous pouvez pas les accueillir, mais c'est génial. Ben, je pense qu'il fallait plutôt rentrer dans une prière de supplication plus que d'action de grâce. Il y a eu tellement de monde qu'on ne s'est occupé de personne. Vous mettez vos filets, les gens viennent. Alors c'est très exaltant, même pour un curé. Ah, il y a plein de monde. Attends, mais t'as rencontré qui vraiment ? Donc est-ce que je cherche la fécondité ou est-ce que je cherche le succès? C'est rassurant, hein? Bon, donc voilà, qu'est-ce que je veux? Voilà, bon. Alors ensuite, donc vous avez compris, donc Dieu, premier point, Dieu nous enseigne d'abord la prière de demande et pas la prière d'action de grâce. Bon, c'est intéressant pour bien nous replacer, je pense. Bon. Ensuite, nous désirons mal, donc ça je l'ai dit en introduction, en fait, une chenille, elle désire être une grosse chenille, si vous préférez. Elle ne désire pas être un papillon. Et donc c'est ça, c'est notre Père, c'est pour qu'on ait un vrai désir, un désir du bien véritable. Bon. On demande à Dieu, donc je le redis, mais pas tellement parce que Dieu n'est pas au courant des choses. Hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous. Enfin, tu vois, on te demande ça, tu l'aurais peut-être oublié. C'est pas le coq qui fait apparaître le soleil. Le soleil, il apparaît même si le coq ne fait pas cocorico le matin, dès l'aube. Dieu nous donne, même si nous ne demandons rien. Il veut nous donner. Hein? Bon. Mais c'est plutôt pour comprendre, en fait, ce que Dieu veut nous donner. Alors, une des questions, c'est, mais en fait, comment Dieu nous exauce? Parce que moi, je demande des trucs et je ne suis pas exaucé. Alors, quand je regarde d'abord dans l'Écriture, souvent, la prière de demande, elle est formulée de manière plutôt comme une prière de présentation. Vous voyez, avec Lazare, Jean chapitre 11, on dit quoi? Seigneur, celui que tu aimes est malade. Les noces de Cana, Jean chapitre 2, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Vous voyez, on n'est pas tellement dans Seigneur, il faudrait que tu fasses ceci, cela. Il y a une certaine chasteté, une certaine distance. Il faudrait peut-être, je me dis peut-être par rapport à nos prières universelles, il y aurait peut-être à réfléchir pour davantage présenter les choses au lieu de dire à Dieu ce qu'il doit faire exactement. Bon. Surtout que c'est parfois, c'est peut-être à nous de le faire et pas à Dieu directement. Bon. Voilà, donc, vous voyez, dans la Bible, dans l'Évangile, demander, c'est plutôt présenter. Bon. Alors ensuite, Dieu nous exauce pas forcément dans l'Évangile. Vous prenez l'épisode Marthe et Marie. Marthe qui dit à Jésus, écoute, là, Marie, elle devrait m'aider. Et Jésus n'exauce pas Marthe. Vous avez les disciples qui veulent écarter les enfants. Hey, Seigneur, là, dis-leur là qui s'en aille un peu. Jésus n'exauce pas. Vous avez un gars où il veut qu'on partage l'héritage. Vous savez, cette histoire-là. Une histoire d'héritage. Jésus dit, mais qui m'a établi pour que je fasse vos histoires d'héritage? Hein? Bon. Donc, il n'exauce pas tout. Et alors, pareil, à un moment donné, il dit quiconque demande reçoit. Luc chapitre 12, verset 13. Mais il ne dit pas ce qu'on reçoit, par contre. Hein. Il dit faut demander, mais il ne dit pas ce qu'on reçoit. Vous voyez, en fait, Dieu nous exauce toujours pour notre salut. Dieu nous exauce pour notre salut. Vous voyez, quelqu'un qui prie en demandant de réussir à ses examens et qui échoue, il n'imagine pas un seul instant que le fait d'échouer bien peut le conduire à un plus grand bonheur que de réussir. Bon. Moi, vous savez, j'ai rêvé d'être prof de Bible. Je voulais être prof de Bible. C'est dans mes rêves. Là, heureusement que Dieu ne m'a pas exaucé, parce que j'aurais pas été curé de paroisse, j'aurais des séminaristes derrière leur écran d'ordinateur. Je vois un nombre de profs au séminaire, je me dis, mais Seigneur, heureusement, tu ne m'as pas donné les capacités pour que je sois prof de Bible. Hein. Des fois, vous savez, je connais telle personne qui a un super boulot, mais qui a fait, je sais pas quoi, un burn-out et tout ça. Enfin, vous voyez, une histoire. On ne sait pas. Bon. Donc, la petite Thérèse, voilà, elle est décédée à 24 ans. Peut-être que le fait qu'elle est En fait, qu'elle est tombée malade, ça a permis quoi? Ça a permis que sa sœur lui dise, il faut vous occuper. Et donc, comment elle s'est occupée? En écrivant les souvenirs de la famille. Ben, si elle avait tout de suite été guérie, en fait, peut-être qu'elle n'aurait rien écrit. Elle serait morte à 80 ans et elle serait sainte, mais complètement ignorée. Bon. Et c'est très curieux la manière dont Dieu t'exauce. J'ai un copain qui est atteint du cancer, là, Damien Ricourt. Donc, à mon avis, 42 ans, je ne suis pas sûr que. Cancer, là, qui a atteint les os. Bon, je ne vais pas lui dire ce que je vous dis là, vous voyez? Évidemment. Mais, bon. Voilà. En tout cas, il y a une certaine providence. Sainte Monique, vous voyez, la maman d'Augustin, était là. Son fils lui dit, écoute, je vais partir en Italie. L'Italie, c'était l'abomination de la désolation. C'était le lieu de la perversion. Et donc, sa prière. C'était, mais Seigneur, qu'il ne parte pas, qu'il ne parte pas, mais qu'il se convertisse, je t'en supplie. Et surtout qu'il se convertisse. Et il a fallu qu'il parte pour se convertir. Sa prière de tous les jours était qu'il se convertisse, or il fallait qu'il parte pour se convertir. Donc heureusement que Dieu n'a pas exaucé la prière de Monique. Heureusement que Dieu a permis que Augustin aille en Italie et qu'il découvre Ambroise. Voilà. Alors ensuite, Dieu nous dit pourquoi le demander. Alors là, je vous invite à prendre le texte numéro 6. Donc le plan, voilà le petit 6 là. Le plan du serment sur la montagne, chapitre 5 à 7. Ça va? Alors, vous avez donc ce texte du serment sur la montagne qui signifie. Le contenu de ce texte, c'est ce qu'on appelle la loi nouvelle mise par écrit. Hein? Avec, bon, écoutez, dans l'Ancien Testament, on vous a dit ça, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère, il a déjà commis un meurtre, quoi. On dit souvent, Dieu, Jésus, il est cool, et vous voyez, c'est pas comme dans l'Ancien Testament, il y a plein de commandements. Jésus est cool, mais il en rajoute. Il est beaucoup plus exigeant que Moïse, hein? Bon. Donc il y a cette action nouvelle à laquelle nous sommes invités à voilà, vivre. Et au centre de cette action, il y a comme trois perles qui sont l'aumône, la prière et le jeûne. Hein? Et quand on vous dit il faut faire carême, bon écoutez, en fait il y a trois points centraux pour le carême, c'est la prière, c'est l'aumône et le jeûne. C'est vraiment ce qu'on retrouve. Hein? Et dans la prière, au centre, vous avez le Notre Père. Et on verra qu'au centre du Notre Père, vous avez une parole. Donc le centre du tout, c'est extraordinaire. Hein? On zoome. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire que la prière et le Notre Père va être le moyen pour vivre l'ensemble. La prière comme moyen. C'est intéressant. Si c'est au centre. On vous dit, écoutez, avec la loi nouvelle, il va falloir vivre comme ça, pardonner à ses ennemis. Quand on te demande ta tunique, donne aussi ton manteau. Des trucs, voilà, vous prenez. Bon, d'accord, mais comment je fais tout ça? Le moyen, c'est la prière. Et le moyen, c'est le Père. Le moyen, c'est Dieu. Par tes propres forces, tu ne vas pas y arriver. Mais par Dieu, avec ma grâce, eh bien, tu vas faire des grandes choses. C'est toujours intéressant de regarder dans la vie des saints ce qu'il leur est demandé et ce qu'ils font. Vous voyez, Lucie, je pense à Lucie, la petite voyante de Fatima. Lucie, elle garde des troupeaux. Et Dieu demande, la Vierge Marie demande à Lucie, tu dois au monde entier. Dévoiler mon message. Bon, comment je fais? Ben, tu vas donc aller à l'école. Pourquoi elle va à l'école? Pour en fait apprendre à lire pour pouvoir donner au monde entier le message. Oui, ne pensez pas à ça. Bon. Vous prenez Saint Ignace, vous prenez tous les saints, vous voyez le décalage entre les qualités humaines, enfin les capacités plus exactement, parce que souvent il y a des qualités humaines, mais elles sont décuplées. Bon. Dieu va me permettre. Et comme c'est au centre, c'est dit aussi le but. Le but de tout. Pourquoi je pardonne à mes ennemis? Pourquoi je donne mon manteau? Pourquoi je m'abandonne à la Providence? Pourquoi toutes ces actions du chapitre 5, 6, 7? Ben pourquoi? Pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer le Père. C'est le but. Et c'est intéressant quand dans un texte biblique, souvent le centre, ça dit aussi le but. C'est l'essentiel. Hein? Le but de nos actions, pourquoi on est en responsabilité à tel ou tel endroit, c'est pas pour aider les gens, c'est pour rencontrer le Père. Pourquoi je suis prêtre? Je suis pas prêtre pour évangéliser. Je suis prêtre pour rencontrer quelqu'un. Parce que si je suis prêtre pour évangéliser et que j'arrive pas à évangéliser, que ça se passe mal, je vais rentrer dans le désespoir, la dépression. Oui, parce que ma finalité, c'est l'action. J'y arrive pas. Donc c'est un échec. Mais si mon but, c'est simplement de faire plaisir à Dieu, que je sois à tel endroit ou à tel autre, c'est pas très grave. Voilà, souvent, quand il y a des difficultés, vous voyez, même dans l'Église, en fait, il y a un oubli du but, la finalité. On ne voit plus pourquoi on fait les choses. On fait ce qu'on a toujours fait. Et on ne réfléchit plus les moyens en fonction du but. Et puis, troisième point, toujours, après ce plan, je comprends que si ce qui est central, c'est la prière, eh bien, cette prière, il faut que je vois qu'elle se concrétise par un agir. Et en quelque sorte, toutes les actions du serment sur la montagne sont la visibilité de la prière. Tu me dis que toi, tu as une relation à Dieu, mais t'invites des pauvres à ta table? Tu donnes ta tunique? Tu pardonnes à celui qui, en aumônerie, t'a fait une vacherie ou pas? Montre-moi tes actions et je te dirai si tu aimes. Les gens, ils ne connaissent pas Dieu, hein. Ils nous connaissent, nous. Donc, ils nous voient dans notre rapport à eux. Donc, les actions expriment le cœur. Il y a un cœur, d'accord, c'est la relation au Père, mais les actions, elles disent l'authenticité de cette relation au Père. C'est pour ça que, vous voyez, l'écorce de la prière, au centre, là, c'est l'aumône et le jeûne. Deux actions qui engagent notre corps, notre être. Alors, vous voyez, j'ai pris le Notre Père dans le serment sur la montagne, je l'ai pris tout au centre. Je vais zoomer un peu, je vais diminuer le zoom. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a juste avant le Notre Père. D'accord? Et donc, je vois versets 5, 6 et 9. Matthieu 6, vous pouvez ouvrir une Bible, hein, si vous avez une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave. Matthieu 6, 5. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. Matthieu 6, 6, donc afin qu'on les voie, en vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Donc je regarde juste ce qu'il y a juste avant le Notre Père. Ça, vous ne l'avez pas dans votre texte. Hein. Matthieu 6, 6, pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc vous voyez, le contexte juste avant Notre Père, c'est le contexte du secret. À deux reprises, on a ce mot secret, on nous dit ferme sur toi la porte, et on nous dit ne sois pas comme les hypocrites qui sont dans les carrefours afin qu'on les voie. Donc vraiment, quand tu veux une prière authentique, la question, ce n'est pas d'être vu, mais c'est d'être dans le secret, d'avoir une relation qu'avec Dieu. Bon, ça veut dire quoi? Derrière, c'est est-ce que la question fondamentale, qui est une question pour notre vie, est-ce que tu veux être vu de Dieu ou vu des hommes? Est-ce que tu cherches à plaire à Dieu, aux hommes ou à toi-même? Moi, en tant que prêtre, quand je fais un choix pastoral dans ma paroisse, bien sûr, je vais travailler, je vais discerner, etc. Mais à un moment donné, il va falloir poser un choix. J'ai discuté avec tout le monde, j'ai mis tout le monde au courant, mais à un moment donné, je vais poser un choix. Est-ce que je choisis en fonction de... en fait, je veux que les gens m'aiment. Donc, comme je veux que les gens m'aiment, puis il y a des gens que j'aime plus que d'autres, entre guillemets. Donc, je vais faire le choix pour rester aimé, voilà, que les gens continuent à m'aimer. Ou est-ce que je fais le choix en fonction de ce que je pense bon pour eux et pour moi? C'est très concret quand vous savez, vous avez des recompositions de paroisse. Voilà. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est bon que je fasse de la voiture tout le temps là? J'ai fait une messe, tout de suite, je ne dis pas au revoir aux gens, je prends la voiture, j'en fais une autre. Comme ça, tout le monde est content. Et tout le monde est content, mais est-ce que c'est bon pour eux? Bon. Donc on va regrouper. Comment on va regrouper? Oui. Et donc, un prêtre, un évêque, quelqu'un en pastoral, mais c'est quelqu'un qui fait des choix qui forcément vont, à un moment donné, déplaire. Mais puisque je cherche l'amour de Dieu, je cherche la sainteté, je cherche pas à être aimé. Donc voilà, j'ai l'assurance que je suis aimé de Dieu. Donc je peux avancer, c'est tranquille. Voilà, la question de la reconnaissance, vous savez, quand quelqu'un, pareil, enfin. Quand on doit quitter, par exemple, une fonction, est-ce que j'accepte de ne plus, enfin, voilà, de plus être à la première place, voilà, enfin, c'est, bon. Alors, plaire à soi-même aussi, derrière ça, c'est plaire aux autres, c'est une chose. Plaire à soi-même, c'est est-ce que ça m'apporte quelque chose? J'ai remarqué ça. Souvent, on peut raisonner dans notre vie par rapport à est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je me souviens de ce questionnaire que j'ai fait en paroisse. On avait fait une journée sur messe de rentrée et puis un déjeuner après. Et puis, dans ce déjeuner, on avait dit, tiens, au début du déjeuner, c'est bien que les gens parlent avec un thème. Donc on avait dit, tiens, on va mettre comme thème, pourquoi allez-vous à la messe? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi allez-vous à la messe? Non, c'était pourquoi allez-vous à la messe? Pourquoi allez-vous à la messe? Alors les gens disaient, je vais à la messe parce que je rencontre une église vivante, des frères et sœurs. Je vais à la messe parce que je rencontre Jésus. Voilà, je vais à la messe parce que ça me nourrit. Je vais à la messe parce que... Mais c'est intéressant, c'était toujours par rapport à moi. Personne n'a dit, je vais à la messe pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Bon, c'est une réponse un petit peu de séminariste, évidemment, ou théologien. Mais en fait, fondamentalement, on va à la messe pour Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. On rentre à Campénéa quand on est consacré pour Dieu. Moi, voilà, c'est toujours pareil, vous voyez, c'est ce décentrement qu'on a tellement du mal à vivre. Bon. Être vu de Dieu seul, enfin voilà, c'est ça que je voulais exprimer par rapport à notre Père. Vous voyez, ces attitudes de cœur qui disent notre désir d'être vu de Dieu seul. Bon. On en reparlera un petit peu tout à l'heure quand on parlera de la fécondité. Alors, fermer sa porte, en même temps, voilà, c'est très spirituel là ce que je dis, mais c'est aussi très concret. Jésus dit qu'il faut fermer sa porte. Donc, on est d'accord que dans notre vie, il nous faut prier concrètement en fermant notre porte. Donc, en fermant notre portable, en disant, je vais prendre un temps de prière qu'avec Jésus. Moi, j'accompagnais quelqu'un, et puis alors, je lui disais, tu pries, tout ça. Ouais, je prie, je prie. Tu pries longtemps? Ouais, je prie 20 minutes chaque jour. C'est beau, chouette, c'est pas. Au bout de 6 mois, J'ai découvert que ce jeune homme, en fait, il priait sur sa moto. Bon, c'est très bien de prier sur sa moto. Oui, on prie tout le temps. La personne a dit, vous savez, moi je prie pas, mais je fais du caté. Mon caté, c'est ma prière. Je fais de la danse, c'est de la prière. Je fais, je sais pas quoi. Moi je peins. Moi je fais de la culture, c'est la prière. Oui, mais Jésus, moi je suis bête. Hein. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ce qui est assez nouveau par rapport à la tradition juive, parce que la prière est souvent pensée par rapport à la synagogue. Hein. Il n'y a pas besoin d'un lieu sacré. Ce lieu, ça va être ta chambre. Mais tu te retires. C'est important de ne pas être ce qu'on appelle dans l'adultère, c'est-à-dire de faire deux choses. Je suis à un endroit, mais mon cœur, il est ailleurs. Je suis sur ma moto, mais mon cœur, il est avec Dieu. D'accord? Mais Dieu, il veut que tu sois avec lui, même physiquement, pas simplement avec ton cœur, totalement pour lui. Est-ce que tu es capable de faire un sacrifice qu'on appelle d'holocauste? Le sacrifice d'holocauste dans l'Ancien Testament par rapport au sacrifice de communion, c'est que tout est brûlé. Je donne tout. Quand je prends un quart d'heure pour Dieu, je fais que ça. Et évidemment, je vais prier sur ma moto, évidemment que je vais prier en... Donc quand je fais une retraite, je choisis toujours un lieu où il y a beaucoup de nature, parce que le fait de marcher me donne Dieu, je me rends bien compte. Et je vais prier en mangeant, par le jeûne, je vais... Voilà. Voilà, si je ne suis pas capable de lâcher, si je ne suis pas capable de mourir, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose par rapport à l'activisme et donc à l'orgueil? C'est ça l'activisme, hein? C'est une forme d'orgueil. Alors soit c'est une forme d'orgueil, soit c'est une blessure aussi, hein? Hein? En fait, je n'ai pas tellement été reconnu dans mon enfance, ou je sais pas quoi, dans mon travail. Donc là, il faut que je fasse bien. Et pour faire bien, il faut que j'en fasse beaucoup. Donc je vais être à toutes les réunions, partout. Et ça part d'un sentiment de générosité. C'est pas quelqu'un qui veut se faire voir. C'est quelqu'un qui dit, je veux bien faire les choses. Oui, mais en fait, bien faire les choses, c'est penser à toi et dire, quelqu'un qui travaille dans l'église, et c'est pas comme un banquier. Un banquier, il fait des comptes, qu'il a la foi, qu'il n'ait pas la foi, c'est pas grave, les comptes seront bons. Un catéchiste, quelqu'un qui travaille dans l'église, s'il ne prie pas, à un moment donné, ça va être tordu. Bon. Du coup, je vais discerner dans ma vie ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est non urgent, non important. Hein? Souvent, on peut être dans notre vie, vous le voyez, tout le temps dans l'urgence. Urgence est pas très important. Voilà, quelqu'un qui vous sollicite, voilà, d'accord, mais est-ce que ça peut attendre? Les mails, je peux peut-être répondre là, je suis pas obligé, bon. Voilà. Et souvent, l'important non urgent, l'important non urgent, vous voyez, le travail de fond sur. On fait une grande soirée pour tout le doyenné. Ça, c'est important, parce que c'est la seule soirée de l'année, par exemple, ou du trimestre. Mais ça, on va la préparer dans la précipitation. Non, c'était pas urgent, mais c'était important. Donc, ça travaille bien ça en amont, pour pas être dans la précipitation, que ce soit une soirée de qualité. Bon. Voilà, retire-toi dans ta chambre. Ne pas prier comme les païens, c'est peut-être prier, comme dit saint Ignace, dans l'indifférence et l'abandon. Ben je le verrai tout à l'heure, ça. Voilà. Hein? Voilà. Avec un grand dégagement, en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu vois, par rapport à cet exaucement, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Je veux bien te suivre et je suis prêt à tout. Bon. Alors, ensuite, Dieu nous montre comment le demander. Comment on va faire notre demande? Alors, je vous invite à prendre le texte numéro 8. Voilà, le Notre Père structuré. Donc, vous voyez, j'ai regroupé le Notre Père, donc il a été traduit littéralement. J'ai deux parties dans le Notre Père. D'abord, des demandes qui concernent Dieu, on va dire, sa louange. Que ton nom soit sanctifié, sanctifié soit ton nom, arrive ton règne, soit faite ta volonté. Ça va ? Vous, comme au ciel, ainsi sur la terre. Donc vous voyez bien que les trois premières demandes, elles concernent Dieu. Et j'ai quatre demandes qui concernent l'homme. Notre pain, alors ça c'est nous, vous voyez, quotidien, donne-nous, remets-nous nos dettes, garde-nous d'entrer dans tentation, éloigne-nous du mauvais. Toi, 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 nous. Ça va ? Bon, ben c'est tout bête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu t'occupes des affaires de Dieu avant de t'occuper des tiennes. Toujours pareil, la finalité d'abord. C'est d'abord les choses de Dieu. Hein? Si vraiment, eh bien, tu t'occupes des choses de Dieu, les choses dans ta vie vont être en ordre. Prenez le texte de Saint Ignace, la page d'avant. Saint Ignace, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il fait des retraites, il dit, écoutez, avec le retraitant, il y a un petit contrat. Il faut qu'on soit d'accord. Parce que si vous cherchez à ce que vos besoins soient pourvus, attendez. Non, on va mettre dans l'ordre. Et donc, ce petit contrat, il passe par un petit texte. Et donc, le retraitant, comme celui qui anime la retraite, ils prennent le texte ensemble et ils lisent. Alors, le but de cette retraite, principe et fondement des exercices de Saint Ignace, c'est que l'homme, il est créé pour louer, révérer, servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est d'accord, tu fais une retraite, mais pour cette retraite, tu sais bien que c'est d'abord Dieu qui doit être le premier servi. L'homme, il est créé pour révérer, servir Dieu et sauver notre âme. Est-ce que je viens pour sauver mon âme quand je fais cette retraite ? Est-ce que je viens pour Dieu ? Voilà, c'est pas évident, hein. Vous savez, moi je prêche des retraites en foyer de charité. Je suis pas sûr que tout le monde vient pour sauver son âme. Je pense qu'il y en a qui viennent pour passer une semaine de vacances sympathique. On mange bien, il y a un beau paysage, on s'occupe de nous. Bon, alors au début de retraite, je leur redonne ça. Je dis, vous êtes peut-être venu par hasard parce que votre femme vous a emmené, votre mari vous a emmené. Bon, le fait est là que vous êtes là, mais en fait, le but d'une retraite, c'est ça. C'est Dieu. Enfin, on redit toujours la même chose. En fait, ça fait 20 minutes que je redis la même chose, hein, d'ailleurs. Quand on réfléchit. Bon. Voilà. Donc, je m'occupe de Dieu. Cherchez d'abord son royaume et tout vous sera donné pour surcroît. Alors, ce qui est intéressant, c'est que trois demandes pour Dieu, quatre pour l'homme. Trois, c'est le chiffre de Dieu. Quatre, c'est le chiffre de l'homme. Et cette demande, c'est l'alliance entre Dieu et l'homme. Hein, les trois vertus théologales. Les quatre vertus cardinales. D'accord ? Bon. Les quatre points cardinaux. Les trois personnes de la Trinité. L'appel des quatre premiers disciples. Donc quatre, c'est toujours le chiffre de l'homme. Donc je comprends que le Notre Père, c'est l'alliance entre Dieu et l'homme. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant je vais aborder les sept demandes. Et avant les sept demandes, j'aborde Notre Père. C'est quand même saisissant de pouvoir dire Notre Père. Il faut savoir, dans la tradition juive, en fait, on invoquait le Père, hein, mais on ne parlait pas, on ne s'adressait pas à Dieu de cette manière-là. La paternité, elle était plutôt collective. Notre Père, celui qui nous a libérés d'Égypte. Notre Père du ciel, celui qui. Mais arriver à parler à Dieu en disant Notre Père, comme Jésus prie, ça c'est extrêmement nouveau. C'est pour ça que saint Paul en Galates 4 dit, nous pouvons dire Abba Père. Hein? Parce que, pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint habite en nous. Le Notre Père, il n'est pas tellement nouveau dans son contenu. Même le pardon des ennemis, vous l'avez dans l'Ancien Testament. Enfin, je veux dire, David, qui avec Saül pourrait très bien transpercer Saül, il ne le fait pas. Ce n'est pas tellement le contenu qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cette grâce de l'Esprit Saint qui nous permet d'oser nous adresser au Père comme Jésus s'adresse à son propre Père. Voilà la nouveauté. Et là, on ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous invite à lire le texte numéro 11 qui parle de cette grâce que nous avons. Ce n'est pas pour rien que le Notre Père, il est juste après le « par lui, avec lui, en lui » au cours de la messe. Pourquoi ? Ben parce qu'à ce moment-là, je suis réconcilié avec Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on est réconcilié avec Dieu ? Qu'est-ce qui fait qu'on est en union avec Dieu, avec le Père ? Ben je suis en union avec le Père parce que le Fils est le seul, Jésus, qui a vraiment aimé le Père correctement. Avant, tous les autres, c'est toujours un peu tordu. Ils font des sacrifices, enfin la moitié, ils en prennent pour eux, etc. Il fallait quelqu'un qui soit vraiment Dieu et vraiment homme pour que la communion entre Dieu et l'homme soit rétablie. Et donc, le moment le plus important de la messe, en fait, théologiquement parlant, pour nous, c'est plutôt la communion, hein, par exemple, ce temps de silence, d'accord. Mais théologiquement, le moment le plus important, c'est l'offrande, par lui, avec lui, en lui. La réactualisation du sacrifice, voilà, du mystère pascal. Bon. Une fois que je suis réconcilié, à ce moment-là, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Vous voyez ? Bon. Donc voilà, nous avons libre accès auprès du Père, c'est quand même extraordinaire. Nous avons un Père. Et finalement, toute la catéchèse, toute l'évangélisation, c'est pouvoir faire comprendre à l'autre qu'il est aimé du Père, qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé de toute éternité, et que c'est à la fois celui qui lui a donné la vie et celui qui nous attend au soir de notre vie. Vous comprenez que si dans mon cœur j'ai la certitude que je suis aimé de quelqu'un, il y a une liberté par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Quand on fait une retraite, finalement, on se rend bien compte, une retraite ou une récollection, c'est toujours une expérience nouvelle de cet amour premier. Quelqu'un qui fait une retraite, vous savez, elle revient à la personne, puis elle dit, vous savez, là, j'ai découvert quelque chose là, dans cette retraite. Mais qu'est-ce que tu as découvert ? En fait, profondément, j'ai découvert que j'étais aimé. Mais tu le savais déjà ? Oui, mais je l'ai redécouvert. Voilà, je l'ai redécouvert. On voit bien que les étapes dans notre vie spirituelle, on ne passe pas une nouvelle étape, un nouvel abandon, parce qu'on nous a tapé dessus en disant « Écoutez, il faut abandonner votre fonction, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Ce n'est pas vrai. On passe une nouvelle étape, un détachement, parce qu'on a fait une expérience de Dieu. Et qu'on se dit « Ouais, en fait, c'est ça. » Vous voyez, c'est Dieu qui nous précède. Alors, en même temps, on ne dit pas « Père », on dit « Notre Père ». Pourquoi ? Parce que je n'ai pas accès, en fait, tout simplement, théologiquement, je n'ai pas accès au Père, je n'ai pas accès à Dieu sans la communauté. Vous avez tous reçu, nous avons tous reçu la foi de quelqu'un d'autre. Nous pouvons tous nous adresser à Dieu parce que des gens nous ont appris à nous adresser à Dieu et l'Église nous a donné le baptême qui nous donne l'Esprit Saint, qui nous permet de dire « Abba Père ». Donc je vois bien que c'est la communauté qui m'enfante à cette relation au Père. Et je vois bien que quand j'ai, là, je passe au registre du coup, là, existentiel, plus théologique, quand j'ai une difficulté avec le Père, j'ai souvent une difficulté avec la communauté. Quand j'ai un souci avec Dieu, quand je n'ai pas fait une expérience de Dieu. Vous avez des gens dans l'Église qui n'ont pas fait l'expérience de Dieu. Pour eux, Dieu, en fait, l'Église, c'est un lieu pour un peu humanitaire. Dans l'Église, eh bien, je sers les autres. Mais c'est toujours un petit peu dans la générosité. Il n'y a pas cette expérience du Père, l'expérience fondamentale. Comme la petite Thérèse, elle fait cette expérience-là. La petite voix, c'est d'abord une expérience d'abandon dans le Père. Quand il y a une petite difficulté verticale, il y a souvent une difficulté à l'horizontale. Le bon exemple, c'est le fils prodigue. Vous avez le fils aîné. Vous imaginez, le fils prodigue, quand il revient, le fils aîné, il dit au père, « Écoute, non, tu ne peux pas recevoir mon frère. Mais t'as pas vu? Il a fait des conneries avec ton argent, il a été voir des prostituées, et tu l'accueilles comme ça. Ben, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi. Voilà tant d'années que je te sers. Tu étais un patron pour moi. Donc comme il a une relation, pas avec son père, mais une relation à un patron, eh bien en fait son frère, c'est un ouvrier. Et d'ailleurs son frère, il se dit, quand je vais revenir vers mon père, je vais me faire ouvrier. Je vais partir vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. En fait, je vais faire un peu comme mon frère, il est avec le père, avec mon père, quoi. Comme mon frère, il est un peu ouvrier, et puis ça se passe bien avec mon père, moi, je vais faire comme lui. Voilà. Donc, c'est assez intéressant, voilà, ça, vous voyez, notre relation à Dieu, elle va déterminer notre relation à nos frères. Il y a vraiment un lien entre les deux. Bon. Et de même, si on n'a pas une relation verticale attachée au Seigneur, l'Église, on va aimer, ah, ça, il n'y a pas de problème. Ah, oui, on se réjouit que le frère revienne, mais ça va devenir un club mondain. Et ça, le pape François, il en parle dans la joie de l'Évangile. En fait, on est bien ensemble, quoi. Sympa. Mais on ne veut surtout pas qu'il y ait de nouvelles personnes parce qu'elles vont déranger nos habitudes. Bon. Alors, notre Père qui est au ciel, pourquoi au ciel? C'est parce qu'on va distinguer dans la tradition juive le Père. Quand on parle du Père, un juif, c'est Abraham. Non. Or là, Jésus dit, c'est pas Abraham. C'est notre Père qui est aux cieux. C'est autre chose. D'accord? Autre chose. Alors, les cieux, qu'est-ce que ça veut dire les cieux? Alors, vous avez le catéchisme de l'Église catholique, vous prenez le texte numéro 13 qui dit ce que sont les cieux. Cette expression biblique ne signifie pas un lieu, mais une manière d'être. Non pas l'éloignement de Dieu, mais sa majesté. Notre Père n'est pas ailleurs, il est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir de sa sainteté. C'est parce qu'il est trois fois saint qu'il est tout proche du cœur humble et contrit. C'est avec raison que ces paroles « Notre Père qui es aux cieux » s'entendent du cœur des justes, où Dieu habite, comme dans son temple. Par là aussi, celui qui prie désirera voir résider en lui celui qui l'invoque. Donc c'est intéressant parce que moi, je suis tombé par terre. En fait, le catéchisme dit que, en fait, les cieux, c'est pas un lieu, mais c'est une manière d'être, ça s'entend du cœur des justes. Ben, je ne le savais pas. Donc, vous voyez, quand on dit notre Père qui est aux cieux, à la fois, vous voyez, on demande ce don de crainte, au sens des sept dons du Saint-Esprit, voilà, tu es vraiment le tout autre, tu n'es pas Abraham, celui que je connais, et en même temps, ça m'invite à demander ce don, le don de piété filiale. C'est-à-dire, en même temps, tu es le tout proche, tu es dans mon cœur. Voilà, Dieu habite en moi, je suis temple de l'Esprit Saint. À chaque fois que je dis Notre Père qui es aux cieux, eh bien, je reprends conscience que ces cieux, c'est mon cœur. Que ton nom soit sanctifié. Alors, la sanctification du nom, moi, je pensais que c'était jouer de la musique, faire des louanges à Dieu. Je vous dis, moi, je suis. Bon, je suis un pauvre type. Bon, alors, donc, je me suis renseigné, j'ai travaillé, et je suis tombé, enfin, pas moi qui ai tombé, hein, c'est quelqu'un d'autre, le père Kowalski, un exégète, dit, attendez, que ton nom soit sanctifié, relisez Ézéchiel 36. Ah bon? Alors, prenez le texte 14. Qu'est-ce que dit Ézéchiel? Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur. Ah, alors c'est quoi cette sanctification du grand nom? Quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux. Oui, d'accord. Alors, je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre sol.
Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Donc, sanctifier le nom, c'est quoi? C'est être rassemblé de tous les pays, c'est recevoir une eau pure, être purifié de nos souillures, de nos ordures, être purifié. Donc la sanctification du nom, je comprends que c'est Dieu en fait qui en fait me pardonne, Dieu qui me lave, Dieu qui me sauve. Tu veux sanctifier le nom de Dieu? Eh bien, pour un chrétien, c'est va te confesser. En fait, c'est ça. À quel endroit, pour un chrétien, je suis purifié de mes souillures, de mes ordures? Alors c'est plein de choses. Mais c'est entre autres le sacrement du pardon. Tu veux sanctifier le nom de Dieu? Va te confesser. Voilà. Alors, bien sûr, il y a toute l'économie sacramentelle. Tout le dessein de Dieu, le plan du salut, c'est nous ramener vers sa tête promise. Mais c'est aussi recevoir cette miséricorde. En plus, en cette année de la miséricorde, eh bien, nous permettons à Dieu, hein, c'est un passif, je sanctifierai mon nom, un passif divin. Donc en grec, quand il n'y a pas de... on ne sait pas par qui, d'attribut, là, mais c'est Dieu. Bon, les trois demandes, elles sont faites par Dieu, réalisé par Dieu. Et le fait que moi, je me rapproche de Dieu, le fait que moi, je reçoive la miséricorde, eh bien, fait que ça va avoir des conséquences sur le monde entier. Les gens vont savoir que je suis le Seigneur, que je suis puissant, que je suis victorieux. Et les nations sauront que je suis le Seigneur. Le travail que je fais sur moi-même, il a des répercussions sur le monde entier. Ça va? Bon. Toujours pareil, hein. Quand Dieu donne quelque chose, c'est toujours pour le monde. Quand Dieu fait quelque chose sur nous, c'est toujours pour le monde. Je t'ai élu, Israël. Tu as été choisi. Ok, c'est un don. Pourquoi? Eh bien, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ah, d'accord. Je t'ai choisi, toi, Julien et Françoise. Pourquoi? Pour le mariage, sacrement du mariage. Très bien. Pourquoi? Ben pour que par votre amour, toutes les nations sachent que je suis le Seigneur. Le sacrement du mariage, il est ordonné pour le monde entier. Bon, alors après, c'est plus délicat quand l'un des deux n'a pas la foi, bien sûr, mais enfin... Voilà, pourquoi j'ai été choisi prêtre? Pas pour aller bien, parce que ça me plaisait, je sais pas quoi. Très bien, ça te plaît d'être prêtre, super. Pour le monde entier. Pourquoi l'Église? Pour le monde entier. Il faut que les gens, donc c'est ça, la conversion de la joie de l'Évangile, il faut que les gens ils comprennent que dans l'Église, en fait, ils sont là le dimanche. Pourquoi? Pour être plus proche des gens dans le monde. Donc il faut arriver à non pas à dire, tiens, en fait, la messe du dimanche et l'Église, c'est mon refuge. Où je suis bien, enfin je ne suis pas dans le monde. Mon père, qu'est-ce que vous faites pour nos enfants? Vous faites quoi pour nos enfants? On a besoin, vous savez, le monde il est dur, donc on a besoin. En fait, vous voulez des tas de trucs pour vos enfants. Moi, je vais faire des activités pour le monde, pas pour vos enfants. Enfin, pour vos enfants, mais ces enfants-là, pour qu'ils soient plus capables de rejoindre le monde, pour qu'ils soient missionnaires. Parce que si je fais simplement de l'église, de la paroisse, un club d'anciens combattants, c'est pas la vocation de l'église. C'est tout le sens du chapitre 2 de Saint Jean, les vendeurs chassés du temple. Ma maison se rappelait maison de prière pour toutes les nations. Elle n'est pas pour toutes les nations, vous en faites un lieu fermé, elle est pour toutes les nations. Voilà. Alors, que je vais faire jusqu'à... On a commencé en retard, hein? Bon, je vais faire jusqu'à 22. Ça va pour la sanctification du nom? Que ton règne vienne, que tu règnes sur moi. Le règne, c'est ça, hein? C'est pas que je règne, c'est que ton règne. Hein, vous avez trois choses. Vous avez la royauté, le règne et le royaume. Les trois mots. Hein, parce que dans la Bible, vous avez toujours un peu les trois. La royauté, Christ roi. Ça va? Dieu est roi. Voilà, c'est toi le Seigneur. Bon. Dieu est roi, il va exercer un règne. Faire sa règne. Ma couronne, c'est devant Jésus. Enfin, devant le Père, devant Jésus. Donc j'accepte que tu règnes. Les démons n'arrivent jamais à dire le mot Seigneur. Ils disent toujours « Tu es le Saint de Dieu ». Tu vois, le Saint de Dieu, mais ça, c'est de la théologie. Mais dire le mot « Seigneur », non. Parce que « Seigneur », ça veut dire « Roi ». Ça veut dire que je vais mettre à genoux, je vais adorer. Les démons, ils sont très bons théologiquement, mais ils sont incapables de plier les genoux. Donc, le roi, il règne. Et ce règne, quand il est accueilli dans des personnes, ça forme un royaume. Ça va ? Bon. Donc, dans cette troisième demande, deuxième demande, je demande en fait que Dieu, eh bien, règne. Alors, je vous invite à prendre la deuxième partie de la prière de Saint Ignace. Texte numéro 7. La finalité, c'est le Père, être vu de Dieu. Ensuite, texte numéro 7, première page, en bas. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin. Ces choses, c'est quoi? C'est le monde créé. Je veux que Dieu règne dans ma vie. Et Dieu me dit, tu sais, pour être roi, le roi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui gouverne. Il est demandé à Adam de gouverner le monde. Tu es prêtre, prophète et roi. Roi, ça veut dire que tu dois agencer la création. D'accord? Tu dois t'occuper des choses de ce monde. C'est ça, quelqu'un qui règne. Il s'occupe des choses de ce monde. Pour cela, par rapport aux choses de ce monde, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toute chose créée, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu. Ça veut dire, évidemment, il y a des choses que tu n'as pas à discerner. Prendre un whisky tous les soirs, non. Sinon, tu vas finir par être un alcoolique mondain. Tu prends un whisky de temps en temps, le dimanche, pas quoi, quand tu as des amis, mais pas tous les soirs. Mais il y a des choses qui ne nous sont pas défendues, qui ne sont pas de l'ordre du péché. Pour ça, il est important de se rendre indifférent. De telle manière que nous ne voulions pas pour notre part davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite pour tout le reste, mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. Tu vois, la retraite Saint-Ignace, en fait, il faut, tu vas discerner dans la dernière semaine ce que tu dois faire. Mais il faut que dès les premiers jours, tu sois indifférent. Tu veux bien être responsable de l'aumônerie comme ne plus l'être. Tu veux bien prendre le micro ou ne pas le prendre. Tu veux bien qu'on te mette en copie à la fin, dans les mails ou que tu ne sois pas en copie. Tu ne vas pas nous faire tout un bazar parce que tu n'as pas été mis en copie. Tu vois ? Tu veux bien une vie longue comme, je sais pas quoi, Sœur Lucie, ou une vie courte comme la petite Thérèse. Tu veux bien être pauvre comme Saint François, ou riche comme les parents de la petite Thérèse qui était riche, et qui avait payé d'ailleurs l'hôtel de Lisieux. Enfin voilà, je suis... Mais vous savez, si dans l'église, ou dans un diocèse, j'imagine, vous voyez, le diocèse de Vannes, tous ceux qui travaillent dans le diocèse, chaque année refaisait cette prière. Je veux bien continuer ma mission si vraiment elle est féconde, ou je veux bien travailler dans telle paroisse qui en fait a besoin, on ne peut pas embaucher de l'aime parce que je ne sais pas quoi, mais il y aurait besoin d'une laïque en mission ecclésiale, et moi je peux très bien passer de cette fonction là dans telle fonction diocésaine à être pendant un an dans telle paroisse. Mettez-moi où vous voulez. Mais moi, ça me gêne pas. Si dans l'Église, on disait ça, ben, tous les prêtres accepteraient leur mission, tous les laïcs seraient souples, ce serait génial. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la personne, elle passe du succès, du pouvoir à la fécondité. Du succès, du pouvoir. Alors, en général, quand on est jeune, on veut le succès. la fille ou le garçon, il joue du piano. Maman, maman, ou il y a des invités. Je peux jouer devant les invités le petit air de piano? Mais oui, ma chérie, joue. Bravo, Charlotte, mais c'est beau. Vous voulez que je le refasse? Mais oui, refaites. Voilà. Alors, ça, c'est bien, elle a 7 ans, 8 ans. Alors, à 14 ans, ça continue, hein, 14 ans, l'ado, il sort le portable. Pourquoi tu sors le portable? Il sonne pas, là. Non, non, mais j'ai besoin que vous voyez que j'ai un iPhone, là, d'accord. Ok, c'est bon, t'es riche, père, le blouson et tout, bon. Voilà, alors, à 14 ans, ça va encore. Alors, le problème, c'est qu'à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, alors, en général, vers 30 ans, il y a moins de succès. Enfin, 30 ans encore. 40, 45, à un moment donné... En fait, on est, vous voyez, là, on n'est plus la super chanteuse, on n'est plus le super gars qui intervient et qui fait que tous les jeunes viennent. Vous voyez, tout d'un coup, il y a baisse de succès. Mais c'est pas grave, j'ai moins de succès, mais j'ai du pouvoir. Je suis chef, donc vous comprenez. Si vous me consultez pas, enfin, je suis désolé, mais ça va pas. Donc voilà, je fais rien, mais j'ai tel titre, tel titre, tel titre, tel titre. Ah, j'ai du pouvoir. Voilà, je suis vachement content. Voilà. Et je lâcherai pour rien, écoutez. Non. Et donc, je fais des choses pour justifier ma fonction. Tu vois ? En fait, il faut qu'on organise un rassemblement. Pourquoi ? Bon, on va organiser le rassemblement parce que je suis dans une fonction. Hein. Si je ne fais pas de rassemblement, vous comprenez ? Bon, donc je vais justifier. Non, on a eu ça. Vous savez, je fais partie d'une communauté. Ça s'appelle l'Emmanuel. Alors, c'est intéressant. Alors, là, ça va faire 25. Bon, alors, et puis après, non, et puis après, j'ai fini. J'ai fini. Alors, je fais, c'est le dernier truc. Voilà, j'arrête. Petit exemple. En fait, c'est une communauté. Alors, vous avez des responsables de ville, puis ensuite, vous avez des responsables de département, puis des responsables. Enfin, vous avez plusieurs responsables. Puis on s'est aperçu que des responsables, donc plus larges, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils organisaient des 4 week-ends. Il y avait 4 week-ends par an. Bon. Puis nous qui étions dans les villes, on disait, mais écoutez, aller au week-end, c'est compliqué et tout, parce qu'on amène notre famille et tout. Donc, on s'est rendu compte que ces grands week-ends où il fallait que tout le monde se déplace, eh bien, en fait, c'était pas adapté. En plus, il y avait des tensions au niveau du calendrier, parce qu'il y a le responsable de Vannes qui dit, écoutez, vous proposez un week-end, mais le week-end, nous, on a déjà eu un week-end, ça fait beaucoup, etc. Donc, oui, mais il faut quand même que je fasse un week-end. Mais moi, il faut que je fasse un week-end. Tout le monde doit faire un week-end. Et donc, il a fallu qu'il y ait une conversion pour que, c'était pas Vannes, mais pour que la personne comprenne que être responsable de l'ensemble, c'est pas faire un week-end, c'est pas avoir du pouvoir visible, c'est prendre soin de chacun qui sont dans chaque ville. Prendre soin des personnes. Ta fonction, elle n'est pas dans le faire, dans le pouvoir. Elle est au contraire dans cette capacité que tu as à lâcher ton pouvoir pour que chacun organise des choses chez lui. Voilà. Et si tu ne sers à rien, parce que le fait, finalement, les gens... Bah, tu ne sers à rien, bah, c'est pas grave, tu fais autre chose. Dans l'Église, il y a assez de trucs à faire. Donc, il va falloir que je passe du ce qu'on appelle le pouvoir à la fécondité. Voilà. J'ai une fécondité, vous voyez ? Quelqu'un, vous avez une femme qui est extraordinaire, c'est, comment elle s'appelle, celle qui a fondé les Petites Sœurs des Pauvres, Jeanne Jugon. À un moment donné, en fait, il y a un prêtre qui, justement, a besoin de pouvoir... mais qui avait un peu des problèmes psychologiques, paraît-il, m'a dit, une petite sœur des pauvres, que j'y étais voir, bon. Donc elle a dit que ce n'est pas tout à fait de sa faute non plus, bref. Et donc elle s'est retrouvée à quitter toute la direction des petites sœurs des pauvres, à être simplement aux ateliers manuels. Et en fait, en étant aux ateliers manuels, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée du pouvoir à l'influence. Elle a influencé toutes les sœurs. Elle a fait passer l'esprit des petites sœurs des pauvres. Et du coup, au lieu d'être dans une tour à pouvoir gérer des immeubles et des tas de trucs, et en fait, à ne pas forcément communiquer le charisme, elle a communiqué le charisme des petites sœurs des pauvres. D'un mal, en fait, le plus grand service que pouvait rendre ce prêtre-là, c'est de prendre le pouvoir, de la mettre au placard, entre guillemets, pour qu'elle puisse avoir de l'influence. Mais voyez, si elle s'était rebellée par rapport à ça, avec une sorte d'orgueil démesuré, elle n'aurait jamais accepté ça, il y aurait eu un clash, et il n'y aurait peut-être aujourd'hui pas de petite sœur des pauvres. Voilà. Est-ce que je réfléchis ma vie en fonction de la fécondité, non pas du succès, du pouvoir ? Amen. Hosanna.